Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans notre dernier épisode, nous avons découvert avec vos yeux d'adolescent Bucarest, le Bucarest d'alors. Nous avons découvert aussi son antisémitisme, sa violence latente, mais qui est quand même sans cesse perceptible. Grâce à votre père, vous faites en cette année la connaissance d'une femme. Vous nous en avez un tout petit peu parlé lors de l'épisode précédent. Cette femme, vous l'appelez Dorée.
Oui.
Et c'est vous qui l'écrivez. Elle vous fit don du plaisir d'amour pour tout le reste de votre vie.
Oui. Il faut dire que l'amour a joué un rôle très important dans ma vie. Je dis ça d'abord parce que mes parents sont séparés et donc l'amour était déjà là dans par le négatif. Mon père était, comme on dit, un homme à femme. Mais en même temps, il y avait l'autre face de cela, c'est quand on est un enfant divorcé, quand on a pour tante Yana, on vit aussi dans la plus grande vertu. Alors donc, il me fit don, non. On pourrait dire que c'était une relation très bizarre, très obscure, dont je n'ai jamais essayé d'éclaircir les arrières. Je dirais les arrière-fonds inconscients, mais donc il me présente à cette femme qui était peut-être avait deux fois mon âge, qui était une femme vivante, chaleureuse, charnelle. Ce qui me manquait en fait dans cette vie un peu desséchée, si je puis dire, que je menais, parce que je menais une vie difficile, toujours mal à l'aise, puisque je n'avais plus de chez moi depuis que je suis parti de Bessarabie. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe un jour, donc, que nous devenons amants. Et effectivement, cette première expérience vraiment amoureuse a été une expérience heureuse. C'est-à-dire, elle m'a vraiment elle m'a initié au corps, à mon propre corps. Et pour cela, je suis toujours reconnaissant. Parce que je pense que cette première expérience est toujours pour chaque jeune décisive. Alors, et en même temps, comme je dis dans mon livre, elle m'a un peu épargné les gribouillis. C'est-à-dire qu'elle m'a, mais elle m'a introduit dans le monde du savoir, de l'amour. Et donc, elle m'a épargné toutes les... Si vous voulez, toutes les ébauches, les difficultés qu'en général, un jeune connaît dans la découverte de son corps et de l'érotisme, qui est une chose essentielle dans la vie.
Et la culpabilité ?
Non, je n'ai pas eu de culpabilité, parce que je pense que je suis, à cause de cette vie, je suis assez immoral par certains côtés. À la fois, j'ai une moralité très stricte en ce qui concerne le travail, le rapport avec les autres, etc. Je suis même vertueux et ascétique, mais il y a ce fond de sensualité, ce fond d'érotisme qui est probablement de mon histoire, mais je crois qu'elle existe chez les Juifs en général. D'ailleurs, les autres le disent.
Politiquement, la guerre approche à grands pas de bottes hitlériennes. La Pologne n'est plus rien. Les troupes polonaises, enfin certaines en tout cas, sont même réfugiées en Roumanie.
Oui.
Et la Roumanie joue pourtant la carte de la neutralité.
La Roumanie joue pendant un certain temps la carte de la neutralité jusqu'à dans les années 40, en septembre 40. Parce que la Roumanie attendait encore que la France ou l'Angleterre fassent quelque chose. Vous voyez, malheureusement, dans ce Kriegsspiel européen, la France et l'Angleterre n'ont pas toujours le beau rôle parce qu'elles étaient présentes. Elles étaient en fait les puissances coloniales de l'Europe de l'Est. Et elles ont abandonné, si je veux dire, une grande partie de ces pays, les ont abandonnés à Hitler.
Alors, quelle est l'ambiance à l'époque en Roumanie? Qu'est-ce qu'on sent dans les rues? Est-ce qu'on sent que quelque chose va véritablement et définitivement changer? Ou est-ce qu'on vit son quotidien sans trop se poser de questions?
Mais on fait les deux choses à la fois quand on attend la guerre. Je pense quand on attend la guerre dans les périodes dures. À la fois, les gens ont peur, ils sentent la menace. C'est quelque chose qui pénètre dans la vie de tous les jours. Et en même temps, on fait le semblant de rien. C'est-à-dire, on essaie de l'oublier, de ne pas parler. On essaie même de mener une vie insouciante. Et je pense qu'en fait, on trouve une sorte d'exacerbation des deux. Mais parmi les Juifs, quand même, c'était plutôt la tristesse, la pauvreté. Parce que la plupart d'entre eux, je n'ai pas parlé, bien je ne fais pas l'histoire de ce pays, mais les pogroms avaient déjà commencé dans les petites villes. S'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus vers les Bucarest et vers les grandes villes, c'est à cause de cela aussi.
Alors, certaines personnes qui ont témoigné, alors qu'elles étaient enfants pendant cette période, bien sûr, disaient que ne connaissant pas la guerre, elles l'attendaient avec une certaine excitation. Est-ce que c'était également votre cas ?
Oh, moi, dans mon cas, non. Parce que j'avais, je pense, à ce moment-là, une sorte de... Je vous ai dit, j'essayais d'être enfant, je pensais à des problèmes politiques. Mais c'est vrai qu'il y a quelques... Les gens attendent parfois la guerre comme les vacances. Enfin, c'est-à-dire l'interruption de quelque chose. Et avec toujours cette impression que la guerre sera courte. Vous voyez, je pense que si les gens avaient le sentiment de la perspective temporelle, ce serait très différent. Et puis, personne ne pensait que cette guerre sera ce qu'elle a été.
Dans les années 40, on le disait la dernière fois, vous êtes donc exclu du lycée, non pas parce que vous êtes mauvais élève, loin s'en faut, mais parce que vous êtes juif. C'est une exclusion qui génère en vous, bien sûr, des interrogations.
Eh bien, pour la première fois, et là, je ne vais pas entrer dans des considérations philosophiques, mais c'est la découverte, si vous voulez, de ce sentiment de responsabilité collective qu'on vous colle. Vous voyez, au fond, quand on est éduqué ou dans la vie normale, ce qui est important, c'est de devenir soi-même, c'est d'être un individu, etc. Et puis tout d'un coup, tout ce qui se passe à propos de vous et autour de vous est indépendamment de ce que vous êtes. Est indépendamment de ce que vous faites. C'est la responsabilité collective parce que vous êtes né dans un certain groupe, parce que vous avez une certaine religion, parce que vous avez un certain passé. Et notre passé est si long qu'on y trouve tout ce qu'on veut. Et donc c'était d'abord ça qui m'a marqué, cette idée de ce sentiment que d'injustice. Enfin, il y avait d'autres, puisque la discrimination n'a pas commencé ce jour-là. Et aussi ce sentiment, j'en parlais avec mon ami Kiva et avec d'autres, là, ce sentiment qu'on ne pouvait pas répondre. Vous voyez, qu'à cette agression qui était quand même très grave, à ce déni de la loi et même du droit des citoyens, si vous voulez, ne pouvait pas répondre. Et ça a été finalement tout le leitmotiv de la vie de quelqu'un dans ces pays. C'est que vous ne pouviez pas répondre. C'est-à-dire toute cette violence, toute cette contre-agressivité qui n'était à nous, cette indignation, ce ressentiment, on ne pouvait pas l'exprimer. Et donc, il se tournait contre nous-mêmes.
Est-ce que vos camarades de classe ont réagi ?
Non, je n'ai pas en dehors d'un seul, si vous voulez, dont je parle, la plupart, non. Pourquoi nous étions pour eux des juifs ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? Ça n'avait aucune espèce d'importance. D'ailleurs, certains, vous savez quand même, il faut bien dire que la plupart, la jeunesse, la plupart des professeurs, la plupart des universitaires, maintenant la liste commence à être connue, étaient antisémites après tout.
Nous ferons connaissance dans un instant avec une famille qui va beaucoup compter dans votre vie. C'est la famille Tzoudik.
Oui.
«
Alors, la famille Tsoudi, qu'elle habite en Bessarabie.
Oui.
Et c'est par votre père, donc, que vous faites connaissance de cette famille, qui est une vraie famille. Contrairement
vraie famille,
à la vôtre, tout le monde est uni, tout le monde s'aime, tout le monde est assez proche. Vous entrez dans la famille Tsoudi, et la famille Tsoudi entre dans votre vie.
Oui, elle rentre dans ma vie, puis elle rentre dans ma mémoire du cœur, si je puis dire. Parce que je me suis toujours souvenu avec beaucoup de tendresse de la famille Tsoudik. C'est une famille qu'on pourrait trouver dans les romans de Singer, vraiment des gens chaleureux, des gens bons. Et une famille très unie qui avait, je me souviens pas, deux ou trois filles. Chez qui, et on allait chez eux souvent, dîner, on se promenait, on discutait beaucoup, on écoutait de la musique, surtout de la musique yiddish. C'est chez eux que j'ai commencé à aimer la musique yiddish, je le dis dans mon livre. Mais aussi, comme toutes ces familles, aussi des discussions sérieuses à ne plus finir, surtout entre les jeunes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pris contact et conscience de cette, comment dirais-je, de cette coupure en trois, si on peut dire, de l'idéologie ou de la pensée de ma génération, à savoir d'une part le sionisme, d'autre part l'assimilation, mais très très peu, et troisièmement le socialisme, le communisme. Et au fond, toutes nos discussions, ça paraît peut-être aujourd'hui très, très archaïque, toutes nos discussions portaient très, très sérieusement sur Marx, sur Herzl, sur Nordau, sur tout cela. Hein. Mais en même temps que nous avions cette vie de province, d'amitié, de chaleur, ces dîners un peu à la russe, un peu larmoyant, le monde larmoyant, bien sûr, et sentimental, qui m'est toujours resté.
Vous étiez en fait de jeunes intellectuels qui ne se prenaient pas au sérieux.
Non, ce n'en est pas du tout, au contraire, très au sérieux. Ne se pas se prendre au sérieux, c'est une chose que j'ai apprise ici et maintenant. Mais nous étions un monde qui se prenait tout au sérieux. Il faut bien voir ça. L'ironie juive n'est pas quelque chose qui ne se prend pas au sérieux. Tout était pour nous sérieux. C'était un monde fanatique dans l'idéologie, fanatique dans la politique, fanatique dans tout ce que les gens faisaient. Non, on ne pouvait pas ne pas se prendre au sérieux. Mais ça n'empêchait pas, si vous voulez, cette gaieté, cette tristesse portée à l'extrême, que vous trouvez d'ailleurs aussi dans les romans de Singer, dans les tableaux de Chagall. La Bessarabie, c'est Chagall, en partie. Et donc, aussi là, c'est un des premiers amours purs et curieux avec Esther, qui m'a à la fois introduit au tango et elle m'a appris à danser. Et le tango nocturne est resté pour moi depuis. Une sorte de refrain mental. Et aussi, c'est par elle que je suis entré au Parti communiste, parce que c'est elle qui m'a mis en contact et m'a fait connaître quelqu'un qui m'y a recruté. Je devais avoir à ce moment-là 14 ans, 13 ans.
Alors, avant d'en parler, regardons, si vous le voulez, la photographie sociologique, si on peut dire en tout cas, de cette époque. Vous, votre analyse, c'est qu'il y avait d'une part une société roumaine divisée à la verticale et une société juive divisée à l'horizontale.
Oui. Alors, ma géographie, la société roumaine divisée à la verticale, c'est à peu près classique, si on se rappelle simplement que c'est d'abord un monde rural. Hein? Un monde rural très pauvre, très pressuré, si vous voulez, avec une petite classe ouvrière et avec beaucoup d'intellectuels qui ne savaient pas toujours ce qu'ils pouvaient faire. Pour Tandis que pour moi, le monde juif était divisé à l'horizontale, dans le sens que la division était la division des générations. La grande guerre, c'était la guerre à l'intérieur des familles. Je ne sais pas si vous avez même vu des familles juives, même il y a 30 ou 40 ans à Paris, la guerre était toujours présente. D'ailleurs, Jean Piat, comment ça s'appelle Pia, le metteur en scène, Piala, il voulait montrer un petit peu dans ses... Donc c'était des familles... où toute cette violence, toute cette agressivité qu'on aurait dû l'exprimer vers le monde extérieur, finalement on l'exprimait à l'intérieur de la famille. Et la lutte des générations est très très importante parce que d'une certaine manière, on reprochait aux parents d'être là où on était. Et alors, je raconte parce que le père pouvait être, pour celui qui était communiste, le représentant de la bourgeoisie. Vous voyez, donc, c'est la lutte des classes. Ou pour le sioniste, c'était le juif dégénéré qui vivait, je ne sais pas quoi, c'était le Luftmensch, chez nous, où on voulait être des gens de la terre, des gens des gens normaux, d'être normaux. Et donc, c'était cette lutte permanente de la famille. D'ailleurs, il y a des cas célèbres, si vous voulez, du père de Lukács, qui était un grand banquier et qui doit sauver son fils, qui est devenu commissaire de Belakoun dans la révolution communiste. Je ne pense pas que c'était de la tarte, que ce soit de la famille. Et en fait, quand on lit Kafka ou Freud, on voit bien que le problème du rapport entre générations et entre les fils et les pères, c'est des problèmes quand même très très grave. Et je pense que dans la communauté juive, c'était la lutte des générations qui était importante.
Nous avons dans cet épisode rencontré l'amour avec Doré. Nous rencontrerons dans l'épisode suivant le communisme avec Kappa.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.